VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la visite du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en Afrique du Sud. Le leader nigérien a appelé ce jeudi au renforcement et à l'application des mesures de sécurité nécessaires à la protection des étrangers dans le pays. Un mois après la dernière vague de violences xénophobes qui ont fait 12 morts et entraîné le saccage de centaines de biens appartenant à des immigrants, principalement à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Le président Buhari a également condamné les représailles qui ont visé des intérêts économiques sud-africains au Nigeria. Lors de ses déclarations à la presse, à l'ouverture de ses consultations avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour sa part, le leader sud-africain a exprimé une nouvelle fois ses vifs regrets pour la violence qui a visé des étrangers dans certaines régions de son pays. Première puissance industrielle du continent africain, l'Afrique du Sud accueille des millions de migrants originaires du reste de l'Afrique ou d'ailleurs dans le monde. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali, deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi, après les combats sanglants du début de la semaine dans le centre du pays. Il y a eu des manifestations de colère hier devant le camp para de Djikoroni à Bamako et le camp de garde sur la route de Kati, ville de garnison située à 15 km au nord-ouest de la capitale. Des protestations qui font suite à l'attaque des camps militaires de Boulkessi et de Mondoro dans les régions de Ségou et de Mopti. Les épouses et les enfants des militaires de l'unité d'élite des Bérets Rouges demandent au gouvernement de leur dire la vérité sur le nombre de morts. Ils exigent aussi une clarification sur les 78 militaires portés disparus. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est de façon spontanée que les épouses et les enfants des militaires Bérets Rouges sont sortis de leur camp de Djikoroni Para pour barrer les routes et brûler les pneus sur la voie. C'est à cause de la tristesse que nous sommes sortis. Nous avons appris que les militaires qui sont à Boulkessi ont été attaqués. Alors qu'il n'y a que des Bérets Rouges. 25 morts et plus de 60 disparus. On veut des explications de la part de nos autorités.
Il y a une seconde manifestation à Koulouba, devant les camps militaires situés sur la route qui mène à Kati, on veut le vrai bilan, pas autre chose, scandale les manifestants au niveau de ces camps.
Ce n'est pas seulement eux au sol qui peuvent combattre les terroristes. C'est un travail de complémentarité. Si l'armée de l'air n'a pas bougé, c'est difficile pour les Bérets Rouges d'accomplir leur mission. Nous voulons savoir où sont partis nos maris, nos enfants, que l'État nous donne des explications.
Ce que nous voulons est simple, des moyens pour les militaires et les nouvelles de nos parents, conclut Mariam Touré, une étudiante revenant de l'école Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest, à Niamey, au Niger, tenu d'un forum axé sur le respect de la limitation des mandats présidentiels en Afrique. L'occasion pour le président nigérien Issoufou Mahamadou de réaffirmer son engagement à quitter le pouvoir en 2021, à la fin de ses 2 mandats. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La rencontre de Niamey a une symbolique. Elle se tient dans un pays où le président est en fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel, alors qu'ailleurs les citoyens s'interrogent encore sur les intentions de leur chef d'État qui se trouve dans la même situation. Au Niger, Issoufou Mahamadou a clairement dit et depuis longtemps qu'il s'en ira. Il l'a réitéré à l'ouverture du forum mercredi.
Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. La respiration démocratique favorise la stabilité des institutions. Par ailleurs, je reste convaincu que la stabilité des institutions réside dans leur légitimité et leur légitimité résulte des élections libres et transparentes. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ce sera ma plus belle réalisation. Ça sera une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance.
Nicéphore Soglo, ancien président béninois, présent au forum avec 4 autres présidents ayant quitté démocratiquement le pouvoir dans leur pays espèrent beaucoup de ce forum, notamment pour la sous-région ouest-africaine.
Malheureusement, dans les États de la CEDEAO et de l'Union africaine, cette thématique suscite encore des soulèvements au sein des États. C'est pourquoi nous espérons et nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif, tel que stipulé dans les constitutions des différents pays africains. Moi, je suis optimiste. Nous allons vers la terre promise.
La terre promise, c'est aussi vers elle que le National Democratic Institute veut conduire les États africains à travers cette initiative. Christopher Fumigno, directeur Afrique de la structure.
Le sommet est le résultat d'une longue réflexion enrichie par les constats du NDI sur le terrain pendant les trois dernières décennies et qui démontre que les pays dans lesquels les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits.
Le forum va durer trois jours au cours desquels experts de la gouvernance démocratique et du droit constitutionnel, hommes politiques et acteurs de la société civile échangent pour trouver des réponses aux multiples questions que pose la problématique. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et élections au Tchad, les élections législatives pourront être organisées de manière réaliste au premier trimestre 2020. C'est ce qu'a affirmé le président de la CENI, la Commission électorale indépendante, lors d'un point de presse. Le président Idriss Déby Itno avait promis que ce scrutin, qui aurait dû se dérouler en 2015 selon la Constitution, aurait lieu avant la fin 2019. L'Assemblée nationale est largement dominée par la majorité présidentielle. Afrique du Nord maintenant, au Maroc, plusieurs dizaines de protestataires ont manifesté devant le Parlement à Rabat pour demander la libération immédiate de la journaliste Hajar Rasouni, condamnée à un an de prison ferme pour avortement illégal et sexe hors mariage. Le point avec Michel Joseph.
La petite foule de féministes et défenseurs de droits humains a dénoncé devant le Parlement une justice aux ordres. Lundi, une jeune journaliste du quotidien arabophone Akhbar al-Yaoum a été condamnée, ainsi que son fiancé, son gynécologue, un anesthésiste et une secrétaire médicale. Hajar Rasouni dénonce un procès politique, assurant depuis le début avoir été traitée pour une hémorragie interne. Son gynécologue l'a confirmé devant le tribunal. Ses avocats estiment avoir démontré, contre expertise à l'appui, que l'affaire ne repose sur aucune preuve et compte faire appel. Un manifeste intitulé « Hors la loi », publié le 23 septembre pour dénoncer des lois obsolètes, n'a recueilli que 8400 signatures. En 2018, la justice marocaine a poursuivi plus de 14 500 personnes pour débauche, 3 000 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 personnes pour avortement.
Actualité aux États-Unis, sous la menace d'une procédure de destitution, le président américain Donald Trump a laissé éclater hier sa frustration en s'en prenant à Joe Biden, son possible adversaire démocrate au présidentiel de 2020. Le chef de l'exécutif a qualifié aussi les médias de corrompus et il a même accusé des élus démocrates de trahison. Le point avec Jean-Roger Bion.
Déterminé à maintenir la pression, les démocrates du Congrès ont menacé mercredi de forcer la Maison-Blanche à leur fournir des documents qu'ils réclament dans le cadre de l'affaire ukrainienne. En réponse, le président Trump a dit que M. Biden et son fils sont de vrais escrocs. Très agressif, M. Trump a largement esquivé les questions des journalistes sur le fond du dossier, c'est-à-dire la demande faite par téléphone à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur les activités du démocrate Joe Biden et de son fils Hunter. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et l'avocat personnel du président Rudy Giuliani, au cœur de ce dossier, refusent le calendrier fixé par les élus démocrates du Congrès. Interrogé sur cette affaire lors d'une conférence de presse à Rome, le secrétaire d'État, qui a lui-même fait l'objet d'une injonction formelle de trois commissions du Congrès, a laissé planer le doute sur les suites qu'il donnerait à leur demande de documents. Au Capitole, siège du Congrès, l'inspecteur général du département d'État, Steve Linick, a, lors d'une réunion qu'il avait lui-même demandé en urgence, présenté des documents liés à l'affaire ukrainienne. Il a notamment partagé le contenu d'une enveloppe siglée Maison-Blanche, renfermant de fausses informations et théories du complot sur Joe Biden et l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.